Verisure, tellement plus qu'une alarme.
J'attends mes vacances toute l'année. Pas question de les gâcher avec un cambriolage.
L'alarme Verisure détecte les intrus avant qu'ils ne pénètrent dans votre domicile et les agents préviennent les forces de l'ordre. Rendez-vous sur verisure.fr pour profiter de moins 50% sur nos packs. Offre soumise à condition. Un service opéré par Verisure, société agréée CNAPS.
Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Foot, Intégral Euro,
Gilbert Bribois.
Il est 22h34, ils sont là, Walid Acherchour, Damien Perquis, Florent Gautreau et les Drôles de Dames nous rejoignent pour parler des quarts de finale qui arrivent après-demain et samedi soir. Johan Crochet est là, salut Johan.
Salut Gilbert, bonsoir à toutes et à tous.
Polo Breitner, salut Polo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Fred Hermel, salut Fredo.
Hola chicos.
Et Julien Laurence, Julien bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Bon, déjà félicitations, hein, vous êtes tous encore en course en quart de finale.
Parce qu'on a transpiré.
C'était pas forcément gagné, mais vous êtes là, bravo les gars. Bon, Johan il a eu chaud aux fesses quand même. Et puis il s'est trouvé une petite dépendance hollandaise. On va dire assez illogique géographiquement, mais bon c'est pas.
Oui, mais historiquement ça serait plutôt l'Espagne. Hein.
Ah oui, c'est vrai.
Les Pays-Bas.
C'est vrai que Charles Quint.
Ouais, quand même.
Bah écoute, tu veux nous parler des Pays-Bas, Fred?
Non, parce qu'on les a laissés il y a longtemps quand même. Bon. Même si Xavi Simons, il est un peu catalan quand même.
Démarrons par le match de vendredi là, qui démarrera les quarts de finale. Et c'est le gros choc entre l'Espagne et l'Allemagne qui vous concerne tous les deux. Les gars, alors Fred, je sais que vous avez chacun bossé de votre côté, parce que Jérôme Thomas, pour une fois, vous a donné du travail. Hein, avec des questions précises.
Il vous a donné des devoirs, hein, comme à l'école.
Et vous les avez fait?
Oui.
Alors, c'était quoi ta première question, Fred?
La première question, c'est ce qui m'a le plus plu dans cette Espagne.
Ah, et alors, quelle est ta réponse?
L'enthousiasme, la joie de jouer, le côté ludique de cette Espagne. C'est-à-dire que c'est sûrement l'équipe la plus belle à voir, celle où on voit qu'ils sont contents d'être là et qu'ils jouent vers l'avant. Et je pense que, voilà, quand on voit notamment l'équipe de France, c'est vrai qu'il y a plus, au-delà de considérations purement footballistiques, je trouve que l'envie d'aller vers de l'avant de l'Espagne est louable.
Et même question côté allemand, Polo.
Bah que les Allemands sont en train de réussir leur euro, aussi bien au niveau de l'organisation, même si tout, évidemment, n'est pas parfait à 100%, on pourrait discuter de tout ça, mais que finalement, depuis 2016, c'est la première fois que l'Allemagne revient en quart de finale d'un grand tournoi international, et ça faisait longtemps quand même. Donc ils ont retrouvé leur niveau. Maintenant, dans le jeu, il y a plein de choses très positives. Encore une fois, je parle de cette absence du vécu et qu'on est dans l'urgence, parce qu'on a trouvé encore une fois l'équipe au mois de mars 2024, même s'il risque d'y avoir des changements. Quelques changements, enfin en tout cas des joueurs qui ont gagné leur place dans le 11 de départ. Et puis, moi, ce que j'apprécie pour le match de vendredi, c'est évidemment ce que à peu près toute la presse, c'est peut-être la première fois que toute la presse européenne est d'accord, c'est que ce sera la finale avant la lettre et que même si ça porte pas son nom parce que c'est un quart de finale, au niveau du jeu, ben. Je cite Rudiger, on espère être d'égal à égal. Moi, je suis beaucoup plus pessimiste, mais j'ai pas envie de défricher les autres questions. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur cette rencontre. Mais ce qui est sûr, c'est que le revoir les Allemands en quart de finale, ça fait du bien quand la dernière fois, c'était en 2016, quoi.
Erreur fatale de Rossellou.
Ah oui.
Ah oui.
Ben, il a voulu refaire un an plus tard ce qu'il voulait faire avec Zidane en disant
parce
on va
que
mettre Kroos à la retraite.
Exactement, exactement. Puisque on est exactement dans les mêmes configurations qu'en 2006 avec Zidane, c'est-à-dire qu'en 2006, vous vous en souvenez, Zidane avait annoncé sa retraite avant la Coupe du Monde. Il quittait le Real et quittait le football après la Coupe du Monde. Et Toni Kroos a fait de même il y a quelques.
Bah, en 2006, si je me souviens bien, c'était plutôt les médias espagnols.
Hein. Non, c'était le journal Marca.
C'était la une de Marca.
C'est pas un joueur qui l'avait dit.
Ouais, c'est ça.
Non, mais sauf que automatiquement après les déclarations de Rossellou, tout le monde en Espagne se souvient de cette histoire. Enfin, je veux dire, c'est dans la culture du foot espagnol. Vamos a jubilar a Zidane, on va mettre Zidane à la retraite. Ça fait partie des trucs parce qu'ils ont perdu 3-1. C'est un truc qu'il faut plus dire, quoi. Voilà. C'est-à-dire que les médias sportifs en Espagne ont une telle importance qu'ils participent de la culture footballistique espagnole et grandement. Donc cette une. Zidane, ça l'avait un petit peu énervé. Et là, il est évident que et ça avait servi aussi un petit peu de motivation générale des Bleus face à cette équipe espagnole. Donc le fait que Rossellou dise Et là, en plus, c'est de son partenaire. Alors, c'est pas bien méchant, mais c'est une manière de parler. Mais sauf que, automatiquement, peut-être qu'il se souvenait pas parce qu'il est, pourtant, il est pas si
oui,
jeune.
C'est du chambrage.
Oui. Non, mais je veux dire, mais automatiquement, on a fait le parallèle. Il a dit, nous allons mettre Toni Kroos à la retraite. Donc, automatiquement. Mais le problème, c'est que ça reprend, ça répond aux déclarations de Lehmann, qui a dit que cette équipe d'Espagne était jeune. Attends, je vais retrouver
la petite. Petite.
Elle est petite. Elle est inexpérimentée. Voilà. Et Toni Kroos en conférence de presse, et l'Apollo va pouvoir le préciser. Elle a dit c'est une petite. Elle est petite. Elle n'a pas d'expérience. Elle est comme une équipe de jeunes. Voilà ce qu'avait dit Lehmann, et aujourd'hui Toni Kroos a dit que oui, que Lehmann était connu pour ses sorties de route et qu'il fallait pas trop lui prêter d'attention parce que voilà. Oui, il y avait des jeunes, mais qu'ils étaient bien encadrés.
Ça c'est exactement comme le débat que je voudrais faire dans l'after, parce que les médias étrangers ont l'habitude maintenant de reprendre des phrases d'anciens grands champions qui sont plus idiots que leurs pieds. Lehmann est connu pour ça, c'est un idiot fini, à chaque fois qu'il parle, tu sais même pas pourquoi il parle, mais comme c'est un ancien champion, c'est repris dans la presse internationale, etc. Et on a l'impression que ça a valeur absolue. Il y en a un paquet comme ça, y compris en France, évidemment, qui t'expliquent, qui passent, qui sont experts, qui t'expliquent, voilà, et blablabla. Alors, je ne sais pas si Lehmann parlait par rapport à sa taille et la sienne, bien entendu, parce que c'était un géant, mais si tu veux, ça fait partie de ces choses inintéressantes. Et moi, je serai patron de journal, mais je ne sais même pas pourquoi j'irai interviewer Lehmann, quoi. Ou alors, je fais du journal de caniveau,
la presse espagnole, enfin, en l'occurrence, je crois que c'est Marca qui a fait l'interview. Voilà, c'est tellement dur d'avoir tu sais comment ça se passe, c'est tellement dur des joueurs que bah tu prends ce qu'il y a. Et puis en Espagne, on ne sait pas
ils ont deux trois punchlines de Lehmann, ils sont contents, c'est tout, ils cherchent pas plus loin.
Mais bien sûr. Ouais.
C'est vrai que c'est très informatif.
Il faut remplir entre chaque match. Bah oui, enfin, excuse-moi, il y a quelques quotidiens espagnols de sport, de foot en Espagne. Donc,
Damien, Florent, Walid, qui est favori de ce match et comment vous le sentez?
Sur la dynamique, c'est l'Espagne. Parce que je trouve que ce qu'ils ont montré sur le début du tournoi, pour moi, c'est la meilleure équipe. Hein, c'est ce que Fred disait tout à l'heure.
C'est l'équipe la plus séduisante, la plus agréable à voir.
Mais même globalement, moi je trouve que elle, hormis le match contre la Croatie, elle concède de très très peu. Elle a un volume d'occasion qui est énorme. Elle a des individualités qui sont très très performantes. Et je lui vois moins de défauts à cette équipe et cette équipe allemande. Après, l'Allemagne fait partie pour moi, de la deuxième équipe derrière l'Espagne. C'est pour moi la finale avant l'heure. Donc on va voir ce qui va se passer. J'ai très très hâte de voir ce match-là, mais je dirais plus l'Espagne sur la dynamique.
Damien,
moi je vois un match accroché. Après j'ai envie de voir. L'Espagne me plaît beaucoup depuis le début du tournoi. L'Allemagne a trouvé une équipe depuis mars, on le disait tout à l'heure, mais qui est consolidée, qui est très dure à manœuvrer aussi défensivement. J'ai hâte de voir en fait ce que va proposer l'Espagne offensivement par rapport à cette équipe allemande qui est plutôt solide. Après il y a aussi le contexte. Voilà, on est en Allemagne, il y a peut-être pour eux aussi le public qui va jouer. Il y a l'envie de bien réussir. Et puis ces petits tracas dans la presse aussi qui peuvent aussi être un sursaut de motivation, un surplus de motivation.
Est-ce que c'est l'Allemagne-Italie de la demi-finale équivalent un peu de 2006, tu vois, le dernier tournoi chez eux, ils ont perdu en demi-finale contre l'Italie, rappelez-vous, qui était aussi une grosse équipe.
Il y a de ça quand même, mais on vient pas, c'est pas tout à fait. Moi j'ai du mal avec cette histoire du compte d'été de comparer 2024 avec 2006, encore une fois parce que Klinsmann à l'époque, lorsqu'il était sélectionneur, avait eu le temps de travailler pendant 2 ans. Nagelsmann, encore une fois, il a éliminé des joueurs à partir des défaites contre l'Autriche et la Turquie, et puis il a trouvé après sa victoire contre l'équipe de France son 11 de départ. Moi, je compare pas ça avec ce qui se passe en 2006, ce qu'il fallait absolument réussir en 2006. Là, on sort d'une crise extraordinaire du foot allemand.
Si t'es éliminé en quart, les gens vont dire que c'est un échec quand même. Non.
Bah pour les Allemands, oui, mais en fait pas pour moi, dans le sens, non mais faut expliquer pourquoi, parce que c'est l'Espagne en face. Ça serait une autre nation, ça serait autre chose. Il y a eu un match, on l'oublie, mais rappelons que les Espagnols avaient battu les Allemands lors de l'Euro 2008, puis la Coupe du Monde 2010, et ensuite les Allemands sont devenus champions du monde. Ils avaient même gagné un match amical après 2014. Et puis ensuite, à nouveau, eh bien les Espagnols ont commencé à dominer, etc. Et puis on se pose la question de cette fameuse rencontre. Il y a la crise du football allemand, et il y a cette fameuse rencontre rencontre de 2020. Je sais pas si Fred se rappelle. Le fameux 6-0 infligé par l'Espagne en Ligue des Nations. Et c'est, à l'époque, en fait, on est en 2024 sur ce qui s'est passé en 2020. Je sais pas quel sera le résultat, mais on est revenu. En 2020, les Allemands voulaient être l'égal de l'Espagne et passer l'Espagne parce que ça leur permettait en plus de se qualifier pour le Final Four, mais de réussir en fait à passer. Or là, ils ont le sentiment que la référence c'est encore l'Espagne. C'est pour ça que depuis 2-3 semaines, quand vous écoutez les experts, les bons en Allemagne, ils vous expliquent que l'Espagne est au-dessus, etc., et que ça va être compliqué pour nous. Et c'est pour cette raison qu'en huitième de finale, la presse allemande réclamait de mettre une volée aux Danois parce qu'ils voulaient une montée en gamme de la Nationalmannschaft pour être prêt contre l'Espagne. Et là, on arrive encore. Alors bien sûr, vous allez voir les sondages faits par Kicker, plus 200 000 personnes, et même là c'est 54-46 pour l'Allemagne, mais évidemment on va pas reprocher aux Allemands d'être plus pour la Nationalmannschaft que pour l'Espagne, mais moi honnêtement quand tu vois les experts qui parlent, ils disent l'Allemagne est en dessous, ça veut pas dire qu'on n'a pas envie de la passer cette Espagne là mais voilà, on est dans cette situation là où c'est un nouveau test pour cette sélection allemande, et honnêtement, être en quart de finale, déjà c'est pas le standing de l'Allemagne historique, donc ça va déranger au bout d'un moment. Ça arrivera en demi-finale, ça serait mieux. Mais comparer encore une fois le compte d'été par rapport à ce qui s'est passé en 2006, moi j'ai un petit peu des petits soucis parce qu'on n'a pas les mêmes repères par rapport à ce moment-là.
Et moi je mettrais un petit bémol par rapport à l'Espagne pour deux choses. On s'est rendu compte que le groupe était finalement pas si difficile que ça, hein, puisque l'Italie, vous allez revenir là-dessus avec Johan, était quand même très très décevante, que la Croatie était vraiment en fin de cycle. Donc le problème, c'est que le gros test, il est à un moment décisif face à l'autre meilleure équipe du tournoi. Et puis je suis désolé de le dire, mais on sait comment ça peut se passer. On a vu quelques petits exemples. Si un petit doute, naturellement, l'arbitrage sera pour l'Allemagne. Voilà, parce que c'est chez elle, on sait comment ça se passe. Donc ça peut être un élément. Oui. Excusez, ça peut être un élément.
Ouais, enfin, je sais pas, parce qu'ils jouent à domicile, tu penses quoi?
Bah, parce qu'ils organisent, oui.
Ouais. Voilà, enfin, bah, bon. Je sais pas. En tout cas, moi je.
Appuie sur le bouton.
Je disais, c'est pas la Ligue avec le Real.
Ah ben non, justement, c'est que le Real. Ben non.
La Ligue des Champions. Enfin,
je sais pas si on se souvient, mais c'est pas le Real qui a payé pendant plus de 20 ans jusqu'à 7 millions d'euros au vice-président du comité d'arbitre.
Il est bon, ce Fred.
C'est des faits, rien que des.
Pour revenir au match. Mais, oui, pour revenir à la fiche. Juste un.
Ouais, alors pris le tour de Florent.
Ah, Fred, lâche la grappe. Juste un mot sur ce match. Moi, je pense que le scénario est quand même plutôt favorable à l'Allemagne, parce que tout le monde voit gros comme une maison l'Espagne, et c'est justifié, parce que l'Espagne a effectivement été la meilleure équipe depuis le début du tournoi. Elle a quand même, quand on observe les matchs, et même le premier contre la Croatie, elle a montré aussi défensivement quelques failles que
c'est la question, ce qui m'a déplu.
Ouais.
Préparé par Jérôme Thomas.
Et donc.
Et moi, c'est la défense centrale.
Ouais, et justement, donc moi, je trouve que le scénario pour l'Allemagne pourrait être bon, parce que oui, si tu perds, si l'Espagne est vraiment supérieure et aussi flamboyante que depuis le début de l'Euro, est-ce que vraiment on va reprocher à cette Allemagne dont Polo nous dit qu'elle a été construite, on va dire, dans l'urgence? Et ben, moi je crois pas. Et à l'inverse, je pense que cette Allemagne ou la Suisse sont les deux nations qui pourraient faire le plus de mal à l'Espagne. Donc je serais plutôt d'ailleurs assez sensible à un scénario qui se terminerait par l'Allemagne qui passe, parce
Après,
que
le problème, Flo, c'est qu'individuellement, notamment devant,
ouais, mais ces tournois,
c'est beaucoup plus fort.
C'est ces tournois où ces équipes qui cartonnent dans la première phase là et qui ne vont, oui, pas au bout sont légion, oui. Ces histoires sont légion,
oui,
aussi.
Sûr, oui.
Donc je suis pas certain que on puisse dire à ce niveau de sélection là que l'Espagne, tu vois, c'est pas, on est pas sur l'Espagne Géorgie, tu vois, on est sur autre chose.
Oui, bien sûr, oui. Après, donc tu vois Gundogan un peu moins bien sur les derniers matchs. Wirtz est sorti du 11, Moussiala c'était sur courant alternatif sur le dernier. Je trouve qu'à côté de Kroos, Andrich, je trouve pas ça dingue. Moi je trouve globalement que de l'autre côté, tu vois, quand tu vois la perf de Nico Williams, Yamal au milieu de terrain, Rodri et
ça,
Ruiz,
c'est devant.
Oui, bien sûr. Après, moi, sincèrement.
Mais la charnière centrale, il y a un vrai doute. Là, ça sera la porte, le Normand. Quand tu vois le Normand face à la Géorgie, il a quand même beaucoup, beaucoup souffert.
Quoi. Oui, après, il fait une grosse erreur, mais.
Ouais. Oui, mais même dans le jeu. Dans
les gars,
il faut
qu'on s'arrête, le temps passe. N'oubliez pas Fulcrog, le sauveur. Merci, Polo, merci, Fred.
On n'a pas répondu aux autres questions. Alors qu'on a bossé pendant des heures.
Pas le temps.
J'ai même pas pu regarder la 7ème compagnie parce que je bossais sur les questions.
Oh, mon pauvre chéri. Il a répondu aux questions en deux secondes.
Polo, juste une question. Schlotterbeck.
Non, on n'a pas le temps.
Schlotterbeck, il joue ou pas? Il démarre?
Oui ou alors non. Apparemment, il va commencer avec, avec Rudiger et Rome sera titulaire et Wirtz fera son retour.
D'accord, merci.
Dans un instant, tout sur l'Angleterre et les Pays-Bas. Salut Fred.
Tu peux regarder. Bonjour, Clé, le gardien, Unai Simon.
Très bien. Moi, je pédale, toi, tu klaxonnes.
Passe un ailleurs.
D'ailleurs, pour Polo. N'oubliez pas l'expérience RMC quand vous entendez l'alerte que vous connaissez. Vous pourrez envoyer RMC par SMS. On vous offre sur RMC votre voyage à Hambourg vendredi pour assister au match France-Portugal. Donc restez attentifs, ça pourrait tomber dans les minutes qui viennent. Dans un instant, c'est l'Angleterre et les Pays-Bas.
On a entendu là.
De quoi c'est
pas le coq de Clément Dantil.
Ah, peut-être.
Fais gaffe quand même.
Ah, pardon, j'ai dit que c'est les places pour les quarts. Non, en fait, c'est les places pour les demi qu'on offre. Voilà. On ne connaît pas encore l'affiche, mais. Voilà.
Pour le France-Allemagne.
Restez attentifs. Ce sera le 9 juillet. Allez, à tout de suite.
RMC.